font réagir. Une vue d'ensemble de l'actualité. Trainville PM.
Bonjour tout le monde, bon lundi, bonne semaine. Eh bien, on s'approche de la rentrée scolaire, hein? Et là, les règles COVID se précisent. Les règles COVID qui vont s'appliquer dans nos écoles, dans nos garderies. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, c'est normal. On va faire le point là-dessus parce que là, les guides commencent à être publiés, là, notamment celui de l'Institut national de santé publique. Donc, plus d'informations dans un instant. Parlant de rentrée, est-ce que vous seriez d'accord pour laisser votre garçon porter une robe pour sa rentrée à la maternelle? Je vous le dis, dans l'équipe, ça a suscité tout un débat. Pour ma part, je vous le dis, moi, j'aurais peur que mon garçon soit stigmatisé. Mais c'est pas l'avis de tout le monde et je vais vous demander ce que vous en pensez. À partir d'un cas concret, on va parler aux parents d'un enfant, les parents qui ont décidé de le laisser aller, de laisser le petit garçon aller avec sa robe. Bon, parlons maintenant un petit peu d'économie. Vous savez, nous, comme contribuables, on a perdu 70 millions dans l'aventure de Nemaska Lithium. Le lithium, vous savez, c'est un métal utilisé dans les batteries de voitures électriques. Il y a beaucoup de lithium au Québec. Et là, vous allez l'apprendre dans un instant, le gouvernement du Québec s'apprête à injecter un autre 95 millions dans l'aventure de Nemaska Lithium. Le ministre de l'Économie, Fitzgibbon, sera avec nous pour en discuter. Les fusillades à Montréal, il y en a de moins en moins dans les bars à cause de la COVID. Et de plus en plus dans les quartiers résidentiels, que fait la police pour nous protéger? Et bon, on va vous parler aussi du marché immobilier. Ça n'a pas de rapport avec ce que je viens de vous dire. Mais est-ce que c'est un bon moment pour acheter ou un bon moment pour vendre votre propriété? Quel impact la COVID a-t-elle eu sur la valeur de notre maison, de notre propriété? Mais d'abord, les règles COVID qui vont s'appliquer. Qu'est-ce que vous voulez? Les parents, c'est normal, se demandent comment les écoles, comment les garderies vont-elles faire pour gérer les cas COVID? Est-ce qu'on envoie notre enfant à l'école si son école, par exemple, hein, au moment où on est dans la période des allergies de plus en plus et tout le reste? Alors, j'en parle avec le docteur Caroline Quash, pédiatre, microbiologiste, infectiologue, épidémiologiste à l'hôpital Sainte-Justine. Bonjour, docteur Quash.
Bonjour, M. Drainville.
Parce que là, l'Institut national de santé publique vient d'émettre un guide. Alors, dites-nous là un exemple très concret. Un enfant présente des symptômes, soit à l'école, soit en service de garde. On fait quoi?
Bien, en fait, là, ce qui est en train de se déployer, c'est que s'il y a des symptômes, on le retire à la maison pour voir comment est-ce que ça évolue. C'est sûr que la plupart des cas en pédiatrie vont avoir de la fièvre. Fait que juste le nez qui coule, de façon générale, il va pouvoir retourner à la garderie le lendemain, mais ce qu'on veut vraiment s'assurer, c'est que ce nez qui coule aujourd'hui ne sera pas accompagné de fièvre ou d'autres symptômes plus graves le lendemain. Mais donc, si jamais il y a cette constellation de symptômes-là, ce qu'on va demander aux parents, c'est d'amener l'enfant se faire tester. Et là, ce qui est en train d'être discuté, c'est où est-ce qu'il va se faire tester. On essaye vraiment d'avoir des corridors de service entre les écoles, les garderies et certains laboratoires, parce que l'idée, c'est pas de rendre la vie des parents impossible à attendre une éternité en ligne là, sur la ligne 1877, mais vraiment d'avoir un système qui fonctionne le plus aisément possible. Et c'est ce qui est en train d'être développé et mis en place présentement. Donc, on devrait en entendre parler davantage sous peu. Là, et je sais que on essaye vraiment que ça soit le plus simple possible. Mais donc, on va se faire tester. On n'a pas le choix. Parce qu'autrement, on ne saura pas quel virus cause les symptômes.
Donc, dès qu'il y a un symptôme COVID, puis il faut les rappeler, les symptômes COVID, ça veut dire de la fièvre, de la toux, mal de gorge, perte d'odorat, perte de goût, diarrhée, difficulté respiratoire. Oui. Bon. Alors, dès qu'un enfant a un de ces symptômes, on ne prend pas de chance, on le retourne à la maison.
C'est ça.
Et là, on veut qu'il soit testé le plus rapidement possible, notamment aussi parce qu'on veut pas qu'il, s'il est pas malade, qu'il manque trop d'école, là, hein?
Exact. Puis on veut pas non plus que si jamais c'était la COVID, ben, qu'il la passe à tous ses amis dans le groupe classe. Mm-hmm. Mais c'est sûr que sur ce sur quoi le ministère travaille, puis j'imagine qu'on va avoir ces directives-là sous peu, c'est est-ce que un symptôme c'est suffisant ou si on va pas en regrouper certains, parce qu'un nez qui coule, il y a rien de plus commun qu'un nez qui coule en hiver. Donc, nez qui coule tout seul, probablement que ça engendrera pas une visite pour un test. Mais nez qui coule avec fièvre, là, absolument, on va le faire tester.
OK. Ouais, ben ça c'est l'autre inquiétude. Puis je vais vous dire, il y a des parents, moi, qui m'en parlent. Le nez qui coule, c'est très commun, c'est très fréquent. Ça peut être un simple rhume. Ça peut être une allergie aussi. T'as le rhume, t'as les symptômes d'allergie, t'as la grippe saisonnière, puis t'as la COVID. Ouais. Comment est-ce que tu... Tu sais, il faut faire la part des choses. Il faut pas paniquer pour rien. Puis en même temps, on peut pas se permettre de laisser passer quoi que ce soit.
Ben c'est ça. Alors, disons que mon enfant aujourd'hui a le nez qui coule, je le ramène à la maison. J'attends 24 heures, voir s'il y a quelque chose qui change ou pas. Si au bout de 24 heures, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de toux, il n'y a pas mal à la gorge, il y a juste un nez qui coule, ben je le renvoie à la garderie. Si jamais il y a de la fièvre avec ça, ben là, je vais aller le faire tester. Si le test est négatif, que j'ai pas, tu sais, il y a quand même une évaluation qui est faite, là, est-ce qu'il y avait des cas dans la communauté autour, est-ce qu'il y a un contact connu et tout. S'il n'y a rien de tout ça, à ce moment-là, il peut retourner à la garderie aussi. Là, c'est pas, on peut pas demander aux parents de garder les enfants à la maison jusqu'à temps qu'il n'y ait plus aucun symptôme. Mais s'il est testé puis qu'il est négatif, et en autant qu'il ne fasse pas de fièvre, il peut retourner à l'école
okay.
ou à la garderie.
Bon, mettons que c'est le scénario négatif. Ok, donc oui. On a un cas confirmé. Là, je l'ai sous les yeux, le guide là, de l'Institut national de santé publique. Mm-hmm. Là, il se met en branle tout un processus. Là.
Tout à fait. Alors, c'est sûr que si le cas est confirmé, à ce moment-là, il faut que la santé publique contacte les autres enfants et enseignants qui ont été en contact rapproché avec ce cas-là. Donc, rapproché, ça veut dire plus de 15 minutes à moins de 2 mètres. Et là, ben on va retirer ceux qui rencontrent, ceux qui remplissent cette définition-là, puis on les retire de façon générale pendant 14 jours pour être sûr qu'ils ne développeront pas de symptômes.
OK. Donc, on retirerait de la classe, par exemple, tous les enfants, on les retirerait pour 14 jours et ça s'appliquerait à tous les enfants qui ont eu un contact de plus de 15 minutes à moins de 2 mètres de l'enfant diagnostiqué COVID.
Oui.
Oui, OK. Et ça s'applique pas juste aux enfants de la classe. Si, par exemple, à la récréation, il a joué avec des enfants pendant plus de 15 minutes, tel ou tel midi...
Oui, mais c'est pour ça la bulle classe. C'est pour ça que on essaye le plus possible de maintenir les bulles classe même pendant les récréations. Sinon, en autant qu'il y ait plus de 2 mètres, les enfants... Bon, au primaire, ça se prête moins à ça, mais... Au secondaire, les enfants pourraient aller manger à l'extérieur sur l'heure du midi pendant une demi-heure, 45 minutes, avec les amis des autres classes, en autant qu'on soit capable de maintenir le 2 mètres. Un peu comme quand on recevait nos amis dans la cour cet été, là, mm-hmm. où on respectait le 2 mètres. À ce moment-là, si ce 2 mètres-là est respecté, même si ça fait 45 minutes, ben ils sont quand même considérés comme comme une exposition non significative et eux ne seraient pas retirés. Mais le but vraiment de ces bulles classes-là, c'est que si jamais il y a un cas dans la classe, qu'on ne soit pas obligé de retirer tout un niveau, mais d'y aller vraiment par groupe classe.
Oui, mais la bulle classe, Dr Quash, ça veut dire que, mettons, pendant l'heure des repas, mm-hmm. il faudrait que tu manges seulement avec des élèves de ta classe. Pendant que tu vas à la récré, il faudrait que tu sois avec des élèves de ta classe, c'est ça?
Ou tu restes à 2 mètres. Comme je vous dis, au primaire, c'est plus difficile à gérer, mais au secondaire, ils sont capables d'aller à l'extérieur puis de rester à 2 mètres avec les amis d'autres classes. C'est soit le groupe classe, soit 2 mètres.
Ouais, mais je veux vous dire, s'il y a des cas confirmés dans une école secondaire, par exemple, ils vont vouloir parler à tous ceux et celles avec lesquels l'étudiant est allé manger un midi. Là, je veux dire, comment savoir que tu étais vraiment à 2 mètres? Tu étais assis autour de la même table, tu sais, puis des ados, à un moment donné, on sait bien, là, tu sais, je veux dire... Ça sera pas simple, Dr Quash. Ça sera vraiment pas simple à faire appliquer.
On est d'accord, mais le nerf de la guerre ici, c'est de maintenir la transmission en communauté le plus bas possible. Comme ça, le risque qu'il y ait un cas positif à l'école est super faible. Alors, présentement, ça va bien. On va rentrer à l'école. Ça devrait bien aller au début. Après ça, il va falloir continuer à s'assurer que la transmission en communauté soit faible. Mais, tu sais, quand je regarde dans les écoles, dans les cafétérias, en tout cas, moi, j'ai été voir la mienne hier et parce qu'on voulait faire le tour pour être sûr que tout était correct. Mais donc, dans la cafétéria, ils ont réussi à maintenir des distances de 2 mètres en mettant les enfants en diagonale à travers la table. Puis, en se disant que au début, il y avait beaucoup de gens qui allaient manger à l'extérieur, ce qui est tout à fait bien. Dans les écoles primaires, les gens s'organisent selon leur milieu aussi. Certaines écoles primaires vont faire le lunch en classe, puis après ça, vont les envoyer jouer dehors. Ouais. Il y a différentes façons de faire. C'est clair que c'est pas facile. C'est un casse-tête constant. Les recettes vont, je vous dirais, se raffiner avec le temps. Certaines écoles vont dire « Ah, moi, j'ai essayé ça, ça marche super bien. » Ben, on va les transférer à d'autres. Faut se rappeler quand même qu'au printemps passé, à part Montréal, les autres écoles ont ouvert et ça s'est bien passé. Ils ont réussi à maintenir les distances. La transmission dans la communauté était faible. Il n'y a pas eu d'éclosion. Quand il y en a eu, c'était de très petits nombres. Et c'est vraiment ça qu'il faut qu'on réussisse à faire, là. C'est maintenir la transmission en communauté le plus faible possible. On a rajouté les masques partout depuis ce temps-là. Fait qu'on espère se donner un peu de lousse.
Ouais.
Mais je vous l'accorde, là, ce sera pas simple.
Oui, mais c'est à force d'en parler qu'on va assimiler ces règles-là, puis une fois qu'on les a bien assimilées, comme vous dites, on va trouver notre manière de les appliquer pour minimiser le plus possible les risques. Qu'est-ce que tu veux? Il va falloir le vivre. Hein? Là, on en parle, c'est un peu théorique, là, mais il va falloir le vivre. Puis vous l'avez bien dit, en dehors de Montréal, ça s'est bien passé le printemps passé. Alors, souhaitons que ça se passe bien dans la région de Montréal et sur l'île en particulier. On verra bien dans les prochains jours. Dr Caroline Couache, pédiatre, microbiologiste, infectiologue, épidémiologiste au CHU Sainte-Justine. Merci encore, Dr Couache.
Merci, bonne journée.
Au revoir. Après la pause, êtes-vous prêt à mettre un autre 95 millions dans Nemaska Lithium? Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, va venir vous expliquer en quoi ce serait un bon deal pour nous.